La convention annuelle Anacofi au Clarouzel du Louvre sur Radio Patrimoine.
Radio Patrimoine installée ici au Carrousel du Louvre qui reçoit maintenant Michel Escalera. Bonjour Michel.
Bonjour Cédric.
Merci d'avoir répondu favorablement à l'invitation de Radio Patrimoine. Vous êtes le directeur général de Palatine AM. Tout le monde passe sous les fourches codines de Cédric Decoeur et je veux le portrait de Palatine. Dites-moi qui vous êtes et ce que vous faites là.
Alors, qui on est? D'abord filiale de la Banque Palatine, la Banque Palatine qui appartient au groupe BPCE, banque des ETI et de leurs dirigeants, pratiquement 20% des ETI françaises, je crois, sont clientes de la Banque Palatine. Nous, dans la Banque Palatine, donc filiale d'asset management de la Banque Palatine, boutique premium positionnée sur la clientèle de la Banque Palatine, historiquement des institutionnels, et nous proposons aussi certains de nos fonds au groupe BPCE, aux banques populaires et aux caisses d'épargne.
Alors je le dis pour ceux qui seraient surpris d'entendre Michel Escalera se qualifier de boutique dans le jargon de la gestion de patrimoine.
Premium.
Oui, quand on dit boutique, c'est plutôt un truc de qualité. C'est maison de conviction, etc. C'est un côté un peu qualitatif, alors que certains qui ne le sauraient pas pourraient se dire, tiens, c'est bizarre. Donc voilà le portrait dressé. Une de vos spécialités, Michel, c'est l'ESG, et notamment dans ces trois lettres E, S et G, c'est notamment le S. Non pas que tout ce qui est gouvernance et tout ce qui est environnement, vous vous en fichez, mais vous avez décidé de mettre l'accent sur le S. Pourquoi d'abord ce choix de s'attaquer à ce S?
Alors, pour une très bonne raison d'abord, c'est que l'ESG, c'est trois lettres.
Et donc il n'y a pas de raison qu'il n'y ait que le E.
Il n'y a pas de raison qu'il n'y ait que le E, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait que le G. Le G est embarqué dans le E et dans le S. Je vais être un petit peu plus concret. Le S, c'est un peu le parent pauvre de l'ESG. Quand on regarde l'offre en matière ESG, on trouve énormément de fonds sur l'environnement, et c'est très bien, et on en a aussi. Mais le constat, ça a été effectivement que à partir du moment où il fait identifier les préférences en matière de durabilité du client, c'est cette dimension environnementale qui est très représentée. Mais quid de cette dimension sociale? Donc on s'est interrogé, parce que ce qui est important, c'est sur la capacité du S et comment à délivrer de la performance pour le client.
Oui, parce que c'est bien de le prendre en compte, mais encore faut-il qu'il y ait de la perf et que le client y trouve son compte.
Exactement, exactement.
Et c'est le cas?
Alors, on croit que c'est le cas. On espère pouvoir prouver que c'est le cas. Dans notre démarche intellectuelle, on a d'abord regardé comment et quelles métriques on pouvait prendre en compte pour créer de la performance et si effectivement ces métriques existaient. On est parti d'abord de travaux académiques, on fait souvent ça dans nos métiers. On a constaté que sur la décennie 2010, aux États-Unis, les entreprises qui étaient best place to work, sur la base des enquêtes réalisées par Glassdoor, produisaient une performance annuelle bien supérieure quand elles étaient bien classées. L'ordre de grandeur, pour vous donner une idée, c'est 20% de performance annuelle, un peu plus de 20% de performance annuelle, contre à peine 12,9% pour le S&P. Donc c'est pas une preuve.
Non, mais c'est déjà un bel indice.
Ça interroge.
Ouais.
Donc on est parti là-dessus. Et donc on a recherché ensuite quelles étaient les métriques qui pouvaient donc transformer en performance, qui pouvaient être transformées en performance, qui pouvaient être des indicateurs avancés éventuellement de performance future. Ça a été la démarche qu'on a suivie. Et après, ça a été corroboré par d'autres travaux qu'on a vus plus récemment. Et depuis qu'on l'a implémenté dans nos portefeuilles, ça donne des résultats qui sont assez satisfaisants.
Et alors, par exemple, pour être le plus concret possible, aujourd'hui, si vous avez un fonds, vous en avez notamment un qui est vraiment dédié à cet emploi durable, vous avez un univers de recherche, et comment est-ce que vous procédez pour, j'ai envie de dire, exclure ou sélectionner, entre guillemets, les valeurs qui vont être les plus génératrice d'emplois durables?
Alors, vous avez raison, on exclut et on inclut. Hein, donc les exclusions, aujourd'hui, alors je ne veux pas être trop technique, mais le label ISR.
Hein, oui, bon, donc déjà, il y a les, voilà, c'est, ouais. C'est, y a c'est les 20, exclusions 25, normatives, on va dire.
Exactement. Donc le label nous oblige à exclure. Alors là, on exclut de manière assez générale sur les notes. Hein, on exclut les 25%, bientôt les 30% hein, de valeurs les moins bien notées. Alors on ne les exclut pas simplement sur des bases quantitatives. On repasse derrière, on regarde. Hein, je pourrais vous donner peut-être un exemple tout à l'heure. Hein, et ensuite, donc on part d'un univers large, 600 valeurs. On en exclut une centaine, un peu plus. Et puis ensuite, c'est du best in class. Donc on va aller chercher les entreprises qui, sur la base des notations qu'on va établir, hein, sur des données externes et notre propre sauce secrète, si je puis dire, hein, sont les entreprises qui sont les plus prometteuses en matière de performance future. Alors, c'est quoi prometteuse en matière de performance future ? Ce qu'on veut, c'est déclencher la boucle création de valeur, donc amélioration de la productivité grâce à des politiques sociales, amélioration de l'innovation. L'innovation, c'est de la performance économique pour l'entreprise. La performance économique, c'est l'entreprise, c'est de la performance financière future.
Du coup, enfin, aujourd'hui, vous avez des exemples de valeurs, par exemple, qui, dont vous êtes capable de nous dire bah, ils ont généré tant d'emplois en plus qu'une valeur équivalente qui ne serait pas dans nos critères.
C'est une assez bonne question. Le premier critère qu'on regarde, c'est la création d'emplois ou la destruction d'emplois par rapport à l'indice de référence. Donc on doit
faire mieux, plus de création ou moins de destruction.
Exactement, exactement. Donc, pour l'avoir au niveau du portefeuille, il faut qu'on le regarde valeur par valeur. Mmh. Hein, et ensuite, donc, on regarde des métriques qui sont des métriques plus... je vais en prendre une concrète. On aime beaucoup la formation, parce que la formation, c'est une façon de faire monter en compétences. Faire monter en compétences, c'est souvent favoriser de la mobilité. Favoriser de la mobilité, c'est maintenir... c'est rester attractif pour le salarié dans l'entreprise, le faire évoluer. C'est aussi... favoriser l'innovation, favoriser la rétention de l'emploi. Les entreprises, en fait, dépensent énormément d'argent hein, pour des problèmes de recrutement et des difficultés à retenir leurs talents. Aujourd'hui, c'est un vrai enjeu pour l'entreprise. Celles qui savent le faire bien, hein, ce sont les entreprises qui vont créer plus de valeur.
Voilà donc un petit peu la... peut-être pas la recette secrète, vous l'avez dit tout à l'heure, de Palatine AM pour ces questions d'emploi durable et donc promouvoir, entre guillemets, le S de ESG. Malgré tout, on est au cœur de cette convention de l'ANACOFI. Vous avez fréquenté des CGP, vous leur parlez au quotidien. Ils ne veulent pas que de l'ESG, j'imagine. Ils ne vous disent pas « je veux que le fonds durable ».
Je dirais même qu'ils ont des...
ils ont besoin d'autre chose,
non ? Des doutes existentiels ces derniers temps.
En plus, ils peuvent en avoir.
Oui, ils ont des doutes existentiels.
Mais ils veulent aussi autre chose, non ? Et du coup, vous les accompagnez avec de la gestion sous mandat avec,
Exactement. J'allais y venir. C'est une des briques importantes, je crois, pour le CGP aujourd'hui. Le CGP, c'est un généraliste expert sur du juridique, souvent expert sur du financier, mais on ne peut pas être expert sur tout. Hein. D'abord parce que ça demande du temps et ça demande, une formation particulière, une expertise particulière, et puis surtout une dédication de tous les instants. Être sur les écrans à suivre l'évolution du marché et les news flows, vous ne pouvez pas en même temps voir un client, faire son analyse patrimoniale, faire son analyse fiscale.
Non, on a besoin de s'adresser à des spécialistes.
Voilà, donc la GSM, c'est la délégation par excellence. Et la délégation d'une brique qui est quand même une brique essentielle quand vous avez fait ce qu'on vient de décrire, tout ce travail en amont qui est un travail énorme. Donc on propose une gestion sous mandat. La marque de différenciation de notre gestion sous mandat, c'est qu'on utilise, on a essayé de modéliser les risques, hein, ce qui est absolument essentiel pour prendre des décisions d'achat, avec un modèle, je fais un peu de barbarisme, mais risk on, risk off, qui est établi sur la base d'une trentaine de métriques, qui sont les métriques qu'on a considérées les plus significatives comme influençant la tenue des marchés et notamment l'appétit au risque. Alors, c'est des métriques sur la volatilité, la liquidité, les spreads. Alors, c'est assez classique, on a fait ça grâce à nos collaborateurs qui est un data scientist et qui connaît à la fois bien les marchés, sait les interpréter et sait modéliser ce type de choses.
Et donc, il y a le petit modèle Palatine qui vous fournit la façon dont on va régler le curseur.
Et très transparent et très pédagogique ou très pédagogue, ce qui est extrêmement utile, évidemment, pour pouvoir expliquer à un client, hein, au-delà de, des sentiments et de tout ce news flow un peu confondant qu'on peut entendre. Là, on peut tracer.
Hein. Voilà comment fonctionne la gestion sous mandat chez Palatine AM, vous savez tout. Juste pour terminer, Michel, on commence à toucher à la fin de cette journée. Vous avez vu pas mal de monde défiler dans les allées sur le stand Palatine AM. Vous avez pensé quoi de l'ambiance, des questions qu'on vous pose, des attentes des CGP? Vous les sentez comment? Est-ce que vous auriez un qualificatif pour ce cru 2025?
Bah écoutez, alors, j'ai pas le recul de l'année 2024, 2023, 2022.
Oui, vous nous avez dit que c'était une première.
C'est nouveau pour nous. Pour autant, je connais bien ce marché parce que j'ai, je pense, assisté il y a une vingtaine d'années, hein, à sa création ou à son accélération. J'observe que les CGP ont pris des parts de marché significatives, qui sont à des niveaux de compétences aujourd'hui plutôt très élevés, qui a un appétit très important en conseil, qui a des préoccupations, il y a des enjeux, il y a des sujets qu'ils ont envie de maîtriser plus, il y a beaucoup d'interrogations et je pense que c'est une très très bonne occasion de se rapprocher d'eux, hein, et de les accompagner.
Michel Escalera, donc le DG de Palatine AM. Merci Michel d'être passé sur le plateau de Radio Patrimoine qui poursuit sa journée au cœur de la réunion de l'Anacofi ici à Paris.
La convention annuelle Anacofi au Carrousel du Louvre sur Radio Patrimoine.